L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Business, c'est parti pour l'atelier numérique. Chaque week-end, nous sommes là, quoi qu'il arrive, 16h, 18h, vos deux heures dédiées aux nouvelles techno et à l'économie numérique. On est ravis de vous retrouver encore une fois en ce samedi. Au menu tout à l'heure, Silicon Carnet avec Nathalie qui va nous parler de nouvelles technologies et d'assurance. Ça bouge du côté des US. La sélection de gadgets d'Antoine Cyr. Antoine qui sera là aussi tout à l'heure pour son crash test. On retrouvera notre start-up de la semaine avec Aurore Géraud. L'enquête de l'atelier. On va évoquer l'e-tourisme. Quoi de neuf dans le monde du tourisme et des nouvelles techno. On verra ça tout à l'heure aussi. Notre World Tour. On va parler de course automobile britannique et puis notre passion selon Saint-Net, jusqu'où Internet va changer nos vies. La rédaction de Zeronet.com sera là aussi. On parlera beaucoup de réalité augmentée dans cette émission avec notamment les casinos. Et oui, la réalité augmentée arrive aussi dans les casinos. C'est le cas chez Partouche, entre autres. Et puis, on reviendra sur la conférence Facebook, la F8 ou F8, qui s'est déroulée il y a quelques jours de cela aux US. Vous savez presque tout. Soyez les bienvenus. C'est parti pour l'atelier numérique sur BFM Business. Et on va commencer par, évidemment, toute l'actu vue par l'équipe de l'atelier. Et on commence par Cécile Puyardy. Bonjour Cécile.
Bonjour François. Alors, je vais vous parler d'un truc que je trouve vraiment super sympa.
Ça tombe bien.
Des films d'espionnage.
Ah, j'adore.
Est-ce que vous voulez regarder les films d'espionnage?
Oui, j'adore.
Les James Bond, etc.
Ben oui, évidemment, je suis un garçon.
On a tous rêvé devant ces héros qui avaient plein de gadgets hyper cool, des stylos enregistreurs, des chaussures laser, des lunettes qui filment. Eh bien, aujourd'hui, certains de ces gadgets peuvent devenir réalité grâce à la technologie.
Exemple.
Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps.
Oui, parce que là, on n'en peut plus.
C'est le géant Sony qui a mis au point, des lentilles de contact capables de filmer ce qu'il se passe devant nos yeux. Donc Google et Samsung avaient déjà essayé et ont d'ailleurs déposé un brevet pour cette technologie. Mm-hmm. Mais Sony va bien plus loin. Il offre la possibilité de stocker la vidéo dans la lentille, à l'intérieur même de la lentille, mais aussi de la lancer directement devant les yeux. En fait, les lentilles sont des petits écrans d'affichage électroluminescents et organiques. Donc vous pouvez filmer, puis revoir la séquence directement avec vos yeux. Donc c'est assez incroyable, je trouve. Pour activer ou désactiver la caméra, un simple clin d'œil suffit, car la lentille est intelligente. Elle va distinguer le clignement naturel de l'œil, qui est plus court, du clignement fait exprès, qui va être plus long, grâce à des capteurs très petits et à l'induction électromagnétique.
C'est donc même... si par exemple je suis devant vous et que je fais un grand clin d'œil comme ça, vous pourriez vous dire, qu'est-ce qui arrive à lui? En fait non, je lance ma caméra.
Exactement.
Ah oui.
C'est un peu malsain.
Vous pourriez.
Mais alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais un clin d'œil ou tu lances ta caméra?
Dans les deux cas, c'est gênant.
On va se retrouver dans une discussion un peu bizarre.
Il faut pas avoir un tic aussi, hein, parce que ça peut être compliqué.
Ah bah oui, non, ça c'est sûr.
Vous pourriez même zoomer et faire un autofocus. Et si la caméra est un petit peu trouble, vous pourriez faire tout ça avec cette lentille. Donc à quoi ça va servir? Évidemment, ça va au-delà de la vie personnelle.
À James Bond, je pense que lui, il va trouver deux, trois usages.
Ça devrait aller. Mais vous pourriez revoir votre premier baiser, par exemple, ou remettre sous le nez de votre conjoint le moment où il avait promis de faire la vaisselle. Si, tu l'as dit, regarde. Mais on peut surtout penser à la notion de témoignage qui va être bouleversée.
Vous avez de bons exemples.
Oui.
C'est presque du vécu, Cécile.
Peut-être, oui, un petit peu.
Peut-être.
Mais ça pourrait surtout aider, voilà, la justice, les forces de police qui pourraient, en fait, utiliser cette technologie comme témoin plutôt que les témoins, aux roues habituels qui peuvent parfois... voilà, on a pas la même perception de la réalité.
Bien sûr.
Et du coup, ça pourrait vraiment aider ces domaines-là.
Par contre, en termes de vie privée, ça pose énormément de problèmes. Parce que
Là, on est à l'abri de rien du tout. Quoi.
De rien. Mais alors, on est à l'abri, comme vous dites, de rien du tout.
Oui.
Voilà, tout est possible, en
exactement.
Fait. Merci, Sony. Bravo. On enchaîne avec Aurore Géraud.
Moi, je reste dans les brevets. Bon, pas le brevet des collèges. Hein. Je parle vraiment de brevets déposés par des grands... notamment Google, hein, on vient de retrouver un brevet donc qui date d'octobre quand même 2014, mais qui vient d'être mis à jour pour un écran qu'on peut déchirer. Alors, on a vu beaucoup ces derniers temps d'écrans qu'on peut plier, qu'on peut enrouler, on en voit partout. Google donc a déjà mis donc ce brevet qui proposerait en fait à des publicités notamment ou des pancartes publicitaires, des coupons de réduction, ce genre de choses. En fait, l'écran serait connecté, donc on pourrait voir certaines choses, mais on pourrait quand même le déchirer, prendre un petit morceau. Notamment, ils le pensent pour les magasins où on prendrait un coupon de réduction, à l'entrée du magasin en déchirant l'écran interactif. Et puis on reviendrait le reposer parce qu'en plus il est modulable, on peut l'accrocher. Et ça rentre directement en fait dans leur projet Araphone. Qui est un projet de téléphone modulaire et plus écologique, où en fait c'est un petit téléphone qui se crée à partir de blocs. C'est un peu un plagiat d'ailleurs d'une start-up qui s'appelle Funblocks. Voilà, donc le prochain écran sera-t-il déchirable ?
Oh là là, écoutez, alors là franchement, tout ça est plein de suspense. Direction San Francisco avec Nathalie. Nathalie qui va nous donner des nouvelles fraîches de Twitter, qui est à San Francisco, rappelons-le.
Et oui, tout à fait. On reste dans les géants de la tech qui font notre quotidien ici. Et Twitter vient de lancer cette semaine une nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est plutôt sur l'appli mobile de Twitter, disponible en iOS, Android, mondialement. Ça s'appelle Connect et ça se caractérise par un petit bouton qui apparaît sur votre appli mobile. En haut à gauche de l'application, vous avez la possibilité d'ajouter des contacts. Alors, Connect, c'est quoi ? Sur le fond, c'est un algorithme que Twitter a développé qui va vous permettre d'avoir des recommandations de contacts à suivre. Parce que vous savez, parfois, c'est un peu le casse-tête. On ne sait pas qui suivre. On suit ceux qui nous suivent. Mais bon, il y aurait peut-être d'autres personnes plus intéressantes à suivre. Eh bien, Twitter a résolu ce problème et vous pousse donc des contacts en fonction de ce que vous aimez, en fonction des comptes que vous suivez, en fonction des sujets que vous tweetez. Et ça peut même aller plus loin pour vous permettre de suivre vos amis et votre famille si vous acceptez de synchroniser votre carnet d'adresses de votre téléphone avec l'appli Twitter. Voilà, donc les tweetos se voient donc simplifier la vie pour savoir qui suivre, sur quel sujet. Ça amène une fonctionnalité assez sympa à Twitter. Cependant, vous le savez, on en a déjà parlé ici, Twitter stagne en termes de nombre d'utilisateurs actifs. Ils sont à 310 millions et ça, c'est un chiffre qui évolue peu. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel Twitter travaille. Et cette fonctionnalité nouvelle, je le pense, vient dans ce contexte un peu particulier pour Twitter. Alors, entre nous, cette nouvelle fonctionnalité ne va pas faire bondir le nombre de nouveaux utilisateurs, mais en tout cas, elle va dans le bon sens puisqu'elle facilite l'usage de Twitter, qui est souvent quand même le reproche numéro un qu'on lui fait de dire que c'est un peu compliqué. Et bien là, Twitter devient simple pour tout le monde.
Oui. Twitter qui se cherche, on le voit encore, hein, et qui essaie de se différencier par rapport aux autres réseaux sociaux. Merci beaucoup. Nathalie, on vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour le Silicon Carnet. On va parler avec vous d'assurance. Mais dans l'immédiat, c'est Lila Megrawa qu'on retrouve pour sa news.
J'éclaire plus ou moins ma voix, ma gorge.
Il faut toujours pour la radio, c'est bien, comme ça on vous entend mieux.
C'est ça, c'est pas mal. Je suis infectée, donc je me sens concernée. Je vais vous parler de santé connectée.
Vous êtes dans une petite tente, hein, toute seule, là, dans un coin du studio.
Ouais, c'est ça, en quarantaine.
En sas de décompression, comme
en
on
quarantaine.
Dit, tout va bien.
Eh bien, si je n'avais pas de smartphone ou si je n'avais pas accès, si je ne pouvais pas consulter mon médecin, je pourrais utiliser l'outil suivant. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle le SpiroCall. Et en fait, le principe, c'est un outil de plus ou moins de captation de votre état pulmonaire, de l'état de vos bronches. Alors, comment ça fonctionne? Ce qui est très intéressant, c'est que ça peut fonctionner aussi bien à partir de votre smartphone et autre téléphone pas intelligent, donc à savoir les feature phones, ce qu'on utilisait les Nokia 3310 par
les
exemple.
Les vieux téléphones vintage.
Tout à fait, les téléphones vintage. Ou bien, c'est ça, ou bien les téléphones fixes. Alors, comment ça marche? Vous appelez le 1800 dans certains pays.
D'accord.
Le 1800, et en gros, en fait, le système, c'est un système téléphonique qui capte votre respiration. Et en fait,
qui va l'analyser?
Tout à fait.
Incroyable.
Et en fait, à partir de cet enregistrement audio, un algorithme va dégager le bruit de l'enregistrement et donc entendre en fonction, vous expirez, vous inspirez, et en fait en fonction de ça, il va être capable de vous renvoyer via texto votre état bronchial ou pulmonaire.
Donc, bon, c'est pas la peine monsieur, vous allez mourir, restez où vous êtes, vous en avez pour 10 minutes, hein, vous êtes sûr? Mais pas qu'on fasse un essai supplémentaire.
Alors, ce qui
peut être un peu stressant quand même.
Ça peut être stressant, mais c'est vrai que pour les patients habitant ce qu'on appelle les zones désertées,
oui, bien sûr,
médicalement.
Ça permet d'avoir peut-être un premier diagnostic
tout à fait
rapide.
Tout à fait.
Et simplement avec un téléphone portable.
Donc oui, ça s'appelle SpiroCall. C'est déjà en place dans certains pays émergents, notamment le Bangladesh. Et il y a également certains tests qui ont été menés aux États-Unis.
SpiroCall.
Cécile.
J'ai décidé de vous faire rêver aujourd'hui.
Ah, bah franchement, vous y êtes arrivé tout à l'heure avec votre lentille. Là.
Après les lentilles qui filment, je vais vous demander, est-ce que vous avez envie, là, maintenant, tout de suite, de vous téléporter à Bali?
Ah bah écoutez, oui. Bali, moi, ça me va.
Bali, ça vous va?
Ouais, c'est pas mal.
Eh bien, c'est presque possible.
Ah.
On peut pas encore se téléporter physiquement, mais on peut téléporter un hologramme. C'est Microsoft qui présente l'holoportation, c'est-à-dire la faculté de téléporter une vidéo filmé en 3D. Donc en fait, concrètement, c'est un système qui va filmer une personne avec plusieurs caméras 3D, qui va compresser la vidéo et l'envoyer en temps réel à une autre personne qui pourra visualiser l'hologramme grâce à un casque de réalité augmentée HoloLens. Donc tous les participants de ce type de conversation du coup pourraient interagir, se voir et s'entendre comme s'ils étaient physiquement ensemble puisqu'ils se filment, ils répondent, ils se voient grâce au casque, ils se répondent en se filmant. Voilà, vraiment comme un hologramme. J'ai vu la vidéo sur internet, je vous conseille d'aller jeter un œil, c'est très impressionnant. On voit un père et sa fille, on a vraiment l'impression qu'ils sont ensemble. Et c'est une technologie qui va, on imagine, sauver de nombreuses relations à distance, par exemple les militaires qui sont loin de leurs proches pendant des mois, mais également des possibilités qui moi je trouve sont infinies. On peut imaginer que ça va améliorer la communication au travail entre différentes entreprises, différentes filiales par exemple d'une entreprise à l'étranger.
Tout ce qui est visioconférence, etc. Ça peut révolutionner tout ça.
Avec l'atelier San Francisco et l'atelier Paris.
Exactement. On pourrait se voir maintenant.
On pourrait voir Jean de Chambure à Shanghai.
Ce serait génial.
Et oui.
Ce serait bien de le connecter à la radio.
Vu l'heure qu'il est, ça serait Jean de Chambure en pyjama.
On n'a pas envie de voir ça.
Pourquoi pas, ça peut être sympathique. Je suis sûr qu'il a des pyjamas sympas en plus, Jean.
En tout cas, il y a plein d'applications possibles. Ça pourrait être un ouvrier sur un chantier qui montre en direct en fait quel est le problème qu'il rencontre à son supérieur qui serait lui au siège. Ou on peut imaginer ça dans le domaine de la sécurité, bien sûr, du renseignement intérieur. Ou enfin, par exemple, encore dans l'éducation, où un professeur pourrait donner un cours très pratique où il manipule les objets à des élèves éparpillés aux quatre coins du monde. Donc on attend avec impatience cette technologie sur le marché.
Et on sait quand est-ce que ça va arriver ou pas?
Non.
Merci beaucoup, Cécile. Je voulais vous coincer et j'y suis arrivé. Peut-être la semaine prochaine, une réponse. Voilà, vous allez enquêter.
Exactement, je vais mener l'enquête.
Parfait. On retrouve maintenant, justement, on l'évoquait il y a un instant, c'est Jean de Chambure pour notre rendez-vous vue d'Asie.
Bonjour François.
Jean qu'on retrouve donc chaque samedi depuis Shanghai. On va parler de la voiture connectée qui est en train de décoller, et sans mauvais jeu de mots, en Chine. Quoi de neuf du côté de la voiture, là-bas?
Eh bien écoutez François, vous savez, il y a eu le grand show automobile chinois. Cette année, ça a été à Pékin, ça a eu lieu la semaine dernière. L'année prochaine, donc ce sera à Shanghai, hein, c'est une année sur deux, ça alterne, c'est le grand salon en fait de la voiture. Oui. Et effectivement, on a vu beaucoup de modèles intéressants avec fortement mise en avant la technologie, la voiture connectée. Alors pourquoi? Parce que en fait, vous savez, le marché chinois, c'est un marché très jeune. L'âge moyen d'un acheteur de voiture neuve en Europe, en France, c'est aux alentours de 50 ans. En Chine, c'est 35 ans. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus jeune. Mm-hmm. Et évidemment, du coup, il y a une appétence pour les nouvelles technologies qui est encore plus forte. Il y a énormément, par exemple, de voitures avec du wifi à l'intérieur. C'est presque en train de devenir quelque chose de banalisé pour les voitures neuves en Chine. Ça va peut-être arriver bientôt en Europe. C'est un genre de service très intéressant. Après, il y a la bataille de la cartographie. Alors ça, la bataille de la cartographie, c'est compliqué parce que évidemment les constructeurs misent beaucoup sur la télématique embarquée, un système d'information embarqué dans le véhicule qui puisse donner des cartographies. Mais bon, voilà, c'est des modèles économiques qui coûtent quand même assez cher au final pour l'utilisateur, alors que vous pouvez l'avoir gratuitement sur votre smartphone. Donc c'est pas encore complètement calé dans le modèle économique, mais c'est intéressant de regarder. Il y a par exemple le Google chinois Baidu qui a lancé sa Baidu Map, hein, qui marche bien, intégré à quelque chose d'un peu plus global avec de la musique et de la téléphonie sur IP.
Ouais. Mmh.
Donc on voit que là, ça se positionne plutôt bien. Et évidemment, le gros sujet sur lequel les Chinois, en tout cas la profession, disons, regarde de près les évolutions, c'est sur la voiture autonome. Parce que bon, il y a bien sûr les géants de l'internet qui se sont positionnés dessus un petit peu comme dans la Silicon Valley, mais il y a aussi des constructeurs chinois qui regardent vraiment de très très près le sujet. Ils ont fait des trajets entre deux grandes villes chinoises qui ont été réussis, donc plus de 1000 kilomètres qui ont été faits en voiture autonome. Et le dernier sujet en fait technologique dont on a beaucoup parlé là-bas à Pékin, c'était en fait tout ce qui est nouveau véhicule avec nouvelles énergies bien sûr électriques. Et là, on voit qu'il y a des acteurs intéressants qui se positionnent comme l'EECO. L'EECO, c'est le Netflix chinois et qui s'est associé déjà auparavant avec Farfadet, qui est un peu le concurrent en fait de Tesla. Mm-hmm. Et là, en fait, ils n'ont pas 10 ans exactement, mais ils sont en train de regarder un prototype avec une Austin Martin S, qui est clairement le concurrent pour le coup de la Tesla S. Et ils vont mettre à l'intérieur des tas de nouvelles technologies, de la reconnaissance faciale pour paramétrer le véhicule, des vidéos à 360 degrés, plein d'applications dans le cloud. Donc on voit vraiment qu'ils sont en train de se positionner très très fortement sur les nouvelles technologies. Mmh. Intéressant. Et puis pour finir, autre chose qu'on a pu remarquer, c'est que d'un côté il y a ça, mais de l'autre côté il y a aussi des usages plus économes de la voiture, des voitures partagées et le marché de l'occasion aussi en Chine, qui compte tenu du ralentissement économique et du fait que ça coûte quand même cher une voiture. Mmh. La voiture d'occasion va sans doute décoller en Chine. Ce marché-là est en train de, avec un site comme Guanzi est en train de décoller aussi assez fortement dans ce beau pays chinois.
Très bien. Et puis on parlait à l'instant de la maîtrise de l'énergie. C'est un enjeu capital là-bas aussi. On l'a évoqué plusieurs fois dans ce rendez-vous.
C'est extrêmement important.
Merci beaucoup Jean de Chambure, donc notre vue d'Asie. Comme chaque samedi, Jean est avec nous en direct depuis Shanghai. On se retrouve la semaine prochaine et vous restez avec nous. La suite de l'atelier avec le Silicon Carnet de Nathalie Doré. Après l'Asie, ça sera les US, plus précisément San Francisco. Et puis le cybergadget d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business. La sélection de gadgets d'Antoine dans un instant. Mais auparavant, direction San Francisco, c'est notre Silicon Carnet avec Nathalie Doré. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Et cette semaine, Nathalie, on va parler d'Insurtech, ce savant mariage d'assurance et de technologie. Alors, quoi de nouveau sur le futur de l'assurance, Nathalie ?
Eh bien, beaucoup de choses, François. Alors, déjà, un signe qui ne trompe pas, il y a beaucoup plus de start-up sur ce domaine de l'Insurtech. Et un des signes, c'est qu'il y a encore un an, il n'existait même pas de rassemblement pour elle à San Francisco, alors ce fameux meet-up. Depuis, il y en a un qui s'est créé. Autre signe, ces startups en insurtech, elles ont une traction forte actuellement auprès des investisseurs qui ont investi 2,6 milliards de dollars en 2015. Alors vous allez me dire, on est encore loin des investissements en fintech, qui eux enregistraient 20 milliards de dollars en 2015. Mais l'insurtech donc devrait continuer à grossir cette année, ce qui n'est pas forcément le cas de la fintech.
D'accord. Mais qu'amène de nouveau toutes ces startups dans le monde de l'assurance, Nathalie ?
Alors, selon moi, il y a vraiment deux familles distinctes. D'un côté, les startups qui viennent améliorer l'assurance d'aujourd'hui, donc l'assurance qu'on connaît. Et d'un autre côté, il y a les startups qui viennent anticiper les nouveaux modes de consommation et qui travaillent vraiment sur l'assurance de demain.
Ouais. Dans la première catégorie, il y a donc toutes les nouvelles plateformes de comparaison d'assurance, c'est ça ?
Oui, et le marché américain est assez mature sur ce sujet-là. Comme en Europe d'ailleurs, il existe ici beaucoup de comparateurs, que ce soit web ou mobile, notamment pour l'assurance automobile. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'innovation arriver via des assistants virtuels, sujet qu'on suit beaucoup, et via notamment ces fameux chatbots, vous savez, les chats donc que les gens font avec des robots. Alors, on peut désormais converser avec Evia, qui est donc un assistant virtuel et qui compare pour vous les assurances automobiles. Donc c'est vraiment un robot agent d'assurance. C'est une start-up américaine qui sort du MIT qui s'appelle Insurify et qui conseille donc l'utilisateur à partir d'une simple photo de la plaque d'immatriculation. Elle se charge d'aller chercher ensuite tous les prix d'assurance auto et en fait vous évite de remplir d'interminables formulaires pour avoir un devis précis.
Ouais, c'est pratique et ça facilite la vie, c'est sûr. Mais j'imagine que les startups cherchent aussi à faciliter la vie de l'autre côté, du côté des assureurs, on va dire.
Oui, c'est vrai. Alors les interfaces clients, c'est important, mais c'est vrai quand on ouvre le capot de ces entreprises en assurance, les enjeux se trouvent aussi beaucoup sur la partie back-office, mieux gérer les sinistres, gagner du temps pour dédommager un client qui est dans une situation critique. C'est ce que proposent aussi d'autres startups ici comme Spex ou Sitecall. Et d'ailleurs, Sitecall a communiqué récemment pour dire qu'ils avaient réussi, grâce à leur solution, de réduire le temps d'attente d'un dédommagement de plus de 19% en moyenne.
Mmh. Est-ce que vous avez, Nathalie, des exemples à nous donner de startups qui anticipent ces nouveaux modes de consommation, justement?
Oui, alors, si on prend deux grandes tendances qu'on observe ici en Silicon Valley, la première, c'est l'économie à la demande. Vous savez, le fait qu'on va demander un service quand on en a besoin, que ce soit une voiture avec Uber, à manger des produits frais avec Amazon Fresh ou même un toit avec Airbnb. Eh ben, Slice Lab, qui est une start-up américaine, est une plateforme d'assurance pour ces travailleurs de l'économie qu'on appelle ici économie des petits boulots, la gig economy. Alors, Slice Lab est encore toute jeune, ils viennent tout juste de lever des fonds, mais son ambition est forte puisqu'ils veulent proposer de l'assurance à la demande pour ces travailleurs à la demande et être du coup vraiment en phase avec leurs besoins. Deuxième tendance intéressante, l'Internet des objets, qui va amener de plus en plus de données en temps réel sur l'assuré. Et on commence à voir d'ailleurs ici des assurances au comportement. Alors vous payez en fonction de votre conduite, vous payez en fonction du nombre de pas que vous faites, de votre sommeil, mais on en est encore vraiment qu'au début. Et puis bien sûr, dans les années à venir, on aura aussi avec les voitures autonomes, la baisse de l'achat versus le paiement à l'usage, beaucoup de choses qui vont révolutionner le domaine de l'assurance. Donc certains besoins en assurance vont disparaître, mais d'autres vont émerger. Donc le futur est plutôt prometteur.
Merci beaucoup Nathalie. Nathalie Doré depuis San Francisco de l'atelier US. Et donc la gadgeto d'Antoine tout de suite dans cet atelier numérique sur BFM Business. Antoine, qu'on retrouvera tout à l'heure pour le crash test avec la femme à barbe comme point de départ de ce crash test. Hein.
Oui, la femme à barbe qui est un concept beaucoup plus geek qu'on pourrait le penser.
Oui, parce que pour l'instant on se dit tiens qu'est-ce qu'il y a ? C'est même presque un sujet rasoir la femme à barbe.
Olaf, vous êtes impayable.
Allez, gadgeto, qu'est-ce que vous avez pour nous cette semaine Antoine ?
Alors j'ai l'innovation la plus bio de bio de bio.
Ça, c'est bien.
Voilà.
Vous savez que le bio, maintenant...
Non, voilà, mais, enfin, c'est bio. C'est, vous allez voir, c'est l'esprit bio.
Il n'y
a pas plus bio.
D'accord.
Parce que, par exemple, il y a plein de machines électriques qui fonctionnent.
Oui.
Alors, on sait que l'énergie électrique, c'est très agréable d'utilisation, c'est non polluant, c'est pas bruyant. On a vu il n'y a pas longtemps des formules, des sortes de Formule 1 électriques roulées dans Paris. On se rend bien compte que l'énergie électrique, c'est une énergie, comme disent les Anglais, extrêmement friendly, sauf qu'à un moment, il faut produire de l'électricité et qu'on sait bien que les machines qui produisent de l'électricité peuvent parfois poser un certain nombre de problèmes. C'est les éoliennes, c'est pas très beau.
Ça fait du bruit aussi.
Voilà, les centrales nucléaires, ça pose un certain nombre de problèmes. Voilà.
Le charbon,
et le
ça
charbon,
pollue.
Alors là, c'est la pollution.
C'est la catastrophe.
Voilà. Bon. Donc, du coup, on se dit que parfois, ce serait bien d'arriver à faire de l'électricité avec du bio. Et c'est ce que vient de proposer une jeune start-up espagnole qui s'appelle BioLight, qui vient de lancer une plante connectée qui permet de recharger jusqu'à 3 batteries de téléphone par jour. Alors en fait, il s'agit d'un pot de fleurs qui récupère l'énergie produite par les plantes grâce à la photosynthèse. L'utilisateur va donc acheter ce pot connecté qui est équipé d'un port USB et il peut faire pousser les plantes qu'il souhaite pour produire sa propre énergie verte. Donc l'idée, ça va être tout simplement d'utiliser les feuilles des plantes comme des panneaux solaires. À l'intérieur du pot se trouve un circuit électrique et un accumulateur qui permet de stocker l'énergie et grâce à ça, on peut charger son téléphone à tout moment, que ce soit pendant la journée ou bien le soir.
Génial ça, attendez.
Ben oui. Donc c'est
alors on en est où là? Ça arrive ce truc là? C'est du prototype? C'est quoi?
Eh bien figurez-vous que on n'est pas très loin de l'arrivée commerciale puisque le pot est pour l'instant disponible à la précommande et en campagne de financement participatif sur Indiegogo et il va être disponible à partir du mois de décembre 2016 pour la somme finalement raisonnable, compte tenu du caractère très innovant du produit, de 99 euros. Mais figurez-vous que ce n'est pas tout, parce que ces start-upers ont l'ambition d'aller plus loin en utilisant autant que possible l'énergie produite par les plantes autour de nous, donc tout autour de nous, pour subvenir à nos besoins énergétiques. Et pourquoi pas, figurez-vous, à terme, remplacer les panneaux solaires. Alors figurez-vous que Repsol, Repsol c'est le grand groupe pétrolier espagnol, et on sait sait que les grands groupes pétroliers, gaziers, sont très fortement engagés dans la transition énergétique, puisque c'est pour eux le sujet de l'avenir. Donc, Repsol a passé déjà un partenariat avec BioLight pour produire des panneaux végétaux d'un mètre carré qui vont pouvoir produire jusqu'à 280 kilowatts par heure. Donc, c'est quand même une innovation qui est porteuse de promesses assez incroyables, ça.
D'accord. Intéressant.
Intéressant.
À suivre. Merci Antoine, on se retrouve tout à l'heure pour le crash test et vous restez avec nous, la suite de cet atelier numérique sur BFM Business et dans un instant. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, notre enquête de l'atelier. On va parler d'e-tourisme. Mais auparavant, notre start-up de la semaine. Avec vous, Aurore Géraud, on va découvrir My Job Company.
Oui, et nous sommes en compagnie de Louis-Antoine Grasset, qui est donc Country Manager France de My Job Company. Louis-Antoine, bonjour.
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 Alors, My Job Company, qu'est-ce qu'il se cache derrière le nom de cette jolie start-up ?
Alors, ben, tout simplement, My Job Company, c'est aujourd'hui la solution de conseil en recrutement nouvelle génération et qui se définit en trois points. D'abord, une approche collaborative, puisque c'est au travers de la cooptation que nous allons identifier les bons candidats. Ensuite, un ADN technologique fort, puisque nous avons développé notre propre moteur de cooptation. Et enfin, et surtout, une forte qualité de service et de conseil, mais 70% moins cher qu'un cabinet de recrutement classique.
Quand vous parlez de cooptation, c'est une manière de détourner, de dire qu'on utilise le réseau d'une certaine façon.
C'est exactement ça. Plus précisément sur déjà la problématique que nous souhaitons résoudre, c'est tout simplement donner accès à des startups, à des PME, à des ETI et à des grands groupes à un conseil en recrutement innovant et efficace. Mais encore une fois, un pricing optimal puisqu'on est 70% plus compétitif qu'un cabinet classique, étant entendu, qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises renoncent au conseil en recrutement tout simplement du fait de la barrière du prix.
Alors les personnes qui mettent en liaison vos utilisateurs, c'est plutôt de l'opportunisme. C'est de temps en temps on voit passer une annonce et on décide de le mettre en avant, ou on voit passer quelqu'un et on décide de le mettre en avant, ou c'est plutôt professionnalisé.
Alors, c'est plutôt professionnalisé, c'est d'ailleurs en voie de professionnalisation active. Mm-hmm. En réalité, sur My Job Company, everyone is a headhunter. Dit autrement, tout le monde peut s'inscrire et participer à un processus de recrutement. Ensuite, sur effectivement le fait d'être sollicité, tout ça va dépendre des problématiques clients auxquelles on doit répondre nous. Mm-hmm. Et donc, si tout le monde peut participer au processus de recrutement, nous faisons aussi une animation, une sélection ciblée de nos recruteurs en fonction des problématiques de recrutement.
Donc concrètement, je suis un potentiel recruteur. Comment fonctionne votre plateforme ? Comment j'agis ?
Alors, comment fonctionne notre plateforme ? Et tout simplement, le principe de My Job Company, c'est de construire et d'animer des communautés de coopteurs, qu'on appelle nous des headhunters, qui sont dédiés à une problématique de recrutement. Pour une grande enseigne de distribution, par exemple, sur des problématiques de métiers de bouche, on va être capable, partout en France, de construire une communauté et de répondre à leurs besoins de recrutement en faisant jouer le réseau de cette communauté. On est très sollicité aussi sur les métiers de l'IT, sur les métiers du marketing, sur les métiers du commercial. Mmh. Et notre but, c'est effectivement de faire grandir ces communautés et de les professionnaliser, puisque nous avons des programmes de formation qui visent tout simplement à les faire monter en compétences sur une pratique amateur du recrutement, mais certains sont assez proches d'un niveau professionnel.
Donc vous avez été récompensé cette semaine pour le prix du capital humain de l'Accélère. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Écoutez, ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite, c'est de poursuivre notre forte croissance pour valider une vision disruptive du marché du conseil en recrutement et d'ici fin d'année de trouver des partenaires financiers pour accélérer notre développement en Europe continentale. On est aujourd'hui présent principalement en France, mais on a un pied déjà en Angleterre, au Benelux, en Suisse, en Allemagne, en Espagne. Et avec un focus très clair sur le marché anglais qu'on adressera probablement l'année prochaine avec plus de moyens.
Bon, très bien, merci beaucoup Louis-Antoine Grasset, donc, qui est Country Manager pour My Job Company, je rappelle.
Merci beaucoup, Aurore Géraud. Et place maintenant à notre enquête de l'atelier de cette semaine. On va parler d'e-tourisme. Quoi de neuf dans ce domaine, Lila?
Bah oui, tout à fait. Pour en parler, on a le plaisir d'avoir deux grands spécialistes du sujet. Nous avons en studio Anne Brouwes Level. Bonjour.
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 Level, directrice générale marketing et digital du Club Med, et Hervé Bloch, fondateur des Big Boss. Bonjour.
Bonjour.
Alors, les Big Boss, c'est un événement dont la prochaine édition se tiendra du 3 au 5 juin prochain et qui réunit les grands boss de l'e-commerce et notamment l'e-tourisme. Pourquoi on vous en parle de l'e-tourisme? Parce que le tourisme numérique est le premier segment de marché d'e-commerce français selon la FEVAD. Pour évaluer, c'est un chiffre d'affaires qui représente quand même 18,3 milliards d'euros. Alors on va rentrer...
Ça en fait des journées à la plage, hein, ça, hein?
C'est pas mal. Soit 32% des ventes en ligne en France. Alors, on a le plaisir, comme je vous disais, d'avoir Anne Brouwes Level. Vous êtes CDO du Club Med. Le Club Med a été un peu le pionnier du voyage, notamment avec notamment sur la formule tout compris. Comment vous avez répondu, vous, chez Club Med, à cette vague de disruption du secteur du voyage? On pense à Airbnb, Booking.com et consorts.
Alors tout à fait, c'est vrai que le Club Med a historiquement dans son ADN d'être un acteur pionnier. La fois, le Club Med a inventé les clubs de vacances, puis le tout inclus, également les clubs enfants. Ensuite, il y a une dizaine d'années, les clubs ados. Donc on est effectivement très vigilant de suivre les usages et les attentes de nos clients. Et dans le monde dans lequel on évolue, on ne peut que constater qu'ils évoluent très très vite. On a par exemple depuis le mois de février plus de la moitié de notre trafic du site Club Med qui vient depuis un mobile, enfin depuis l'ensemble des terminaux mobiles. C'est un changement énorme qu'on a vu arriver en un à deux ans. Donc les usages de nos clients changent dans leur façon de choisir le Club Med et forcément dans leur façon de choisir les vacances. On suit de près à la fois le phénomène des OTA, donc Booking, également Airbnb et puis toutes les évolutions qu'il peut y avoir autour de TripAdvisor et des nouvelles fonctionnalités de réservation instantanée. Nous avons des réalités différentes selon les marchés. Dans un marché comme la France, la marque Le Med est très connue et donc on a énormément de réservations directes. Donc à date, on ne souffre pas directement en tout cas de cette nouvelle type de concurrence qui émerge. Et puis c'est pour nous, dans nos marchés en croissance, pour le coup une opportunité. Si vous prenez la Chine, qui est notre marché en plus forte croissance, le développement du digital, le développement des OTA est pour nous une occasion d'avoir des marges de croissance et des rythmes de croissance beaucoup plus élevés qu'ailleurs en étant partenaire avec eux, donc avec des acteurs comme Alibaba, puisqu'on est vendu sur leur chaîne voyage Alitrip ou Ctrip, Tuniu ou Kaisha, les gros acteurs leaders en Chine.
Hervé Bloch, on le disait, vous avez choisi d'accompagner les big boss de l'e-commerce dans leur transformation digitale via l'organisation d'événements et également diffusion d'interviews. Est-ce que vous auriez en tête d'autres belles histoires, d'autres exemples du secteur émanant du secteur du voyage qui auraient répondu à l'instar du Club Med à cette disruption numérique?
Alors aujourd'hui, on parlait du mobile, ça devient la télécommande pour le voyage, pas simplement la réservation, mais aussi l'exécution de ce voyage, pour avoir des bons plans en temps réel, pour pouvoir peut-être même se plaindre et avoir tout de suite réponse à l'ensemble de ces questions. Et puis après le voyage, pour peut-être répondre à des questions de satisfaction. Donc finalement, ce smartphone devient la télécommande et devient l'élément clé du voyage. Tous les acteurs que j'ai pu interviewer dans le tourisme ont tous dit que le mobile, c'était plus un gadget, c'était plus une option, et il fallait vraiment traiter à la fois la réservation, le chiffre d'affaires, mais aussi l'exécution de ce voyage, la satisfaction de ce voyage.
Donc, est-ce à dire que finalement les marques de tourisme se tendent à devenir des médias par obligation quelque part, puisqu'ils sont censés accompagner le client en les informant, les orientant?
Alors le voyage, c'est inspirationnel. Donc faut raconter des belles histoires. C'est vrai que le Club Med est une histoire, une saga à elle toute seule. Et donc aujourd'hui, les acteurs du tourisme doivent faire du contenu au même titre que les médias peuvent être des marketplaces, les médias du tourisme peuvent diriger du trafic et du coup devenir même des vendeurs du tourisme. Donc il n'y a plus, je dirais, de concurrence entre un média et un site dit tourisme. Les deux doivent travailler intelligemment.
Pour illustrer ce point, par exemple, pour le Club Med, TripAdvisor est très complémentaire dans le parcours d'achat de nos clients. Aujourd'hui, c'est pas pour nous un concurrent, c'est un point de passage naturel. On a 9 clients sur 10 du Club Med qui viennent sur le site du Club Med avant de venir en vacances chez nous. On sait qu'on en a quasiment autant qui vont sur TripAdvisor. Mmh. Parce que en complément de tous les contenus qu'on va leur donner, et on les enrichit énormément, les gens, avant de partir en vacances, ont envie de tout savoir. Ils vont vouloir voir aussi les avis d'autres voyageurs, les photos complémentaires. Et aujourd'hui, cette démarche, c'est même plus qu'on inclut le mobile, c'est qu'on devient une entreprise mobile first. Elle est très vraie aussi pendant les vacances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, et c'est encore plus vrai avec la montée en gamme du Club Med, ont tous un smartphone avec eux pendant les vacances. Ça devient un prérequis d'avoir une bonne qualité du Wi-Fi. Et on a lancé il y a un an une application mobile qui permet de mieux profiter de ses vacances quand on est en séjour au Club Med. Sur nos villages les plus avancés, comme ceux de l'Amérique du Nord, à Cancun ou à Punta Cana, on a 40% des GM, donc des gentilshommes, des clients, qui sont dans un village, qui téléchargent l'application et qui l'utilisent pendant leurs vacances pour profiter pleinement de toutes les activités du village.
Qu'est-ce qu'elle rapporte, typiquement ?
Alors, elle leur permet déjà une première chose très simple, c'est de savoir à l'instant T tout ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai qu'une des différences du Club Med, c'est qu'on a dans nos villages un ensemble de 45 activités qu'on peut faire qui permettent à une famille, à une tribu qui a un homme, une femme qui n'ont pas envie de la même chose, un ado, un bébé, un moyen, les amis, de tous profiter de bonnes vacances, de se retrouver au moment des repas et puis de profiter. Donc la première chose, c'est qu'on voit à l'instant T tout ce qui est possible sur le village. Le deuxième
cours
élément.
Cours d'aquagym, cours de tennis.
Le cours
etc.
d'aquagym, voilà. Ouais. Le teen password, parce que quand on part en vacances avec des ados, il n'y a pas beaucoup d'endroits où, comme au Club Med, on peut retrouver ces ados extrêmement heureux qui profitent de la semaine. Donc les avoir avec soi, en les ayant quand même très heureux de ne pas être non plus trop collés.
On peut les jouer au localiser quand même aussi pour savoir où ils sont.
Alors, on y travaille, mais je pourrais pas vous révéler.
Vous devriez sortir un truc.
Je pourrais pas tout à fait vous révéler. On travaille sur les sujets de bracelets connectés, donc à venir, il faudra faire une vacance au Club Med cet hiver.
Attendez.
Pour en bénéficier, on va lancer ça dans certaines de nos géographies.
Servira à quoi ce bracelet connecté ?
Il peut servir à plein de choses. Alors déjà, c'est un projet qu'on a en cours. On va faire un hackathon début juillet qu'on vient de confirmer justement sur ces services en village et entre le bracelet connecté. On sait qu'aujourd'hui, nos clients apprécient au Club Med le fait que leurs enfants vivent des vacances enrichissantes comme nulle part ailleurs, parce qu'ils vont faire des cours de cuisine, parce qu'ils vont faire du trapèze volant. Et en fait, les parents sont très heureux de récupérer leurs enfants le midi ou à 17h pour qu'ils leur racontent, mais ils seraient encore plus heureux de quelque part le voir en temps réel et de pouvoir voir tous les pas, les jalons qu'ont franchi leurs enfants. Donc on travaille sur ces sujets-là. Et ce que ça permet déjà de faire aujourd'hui, c'est qu'on a par exemple en service digital ce qu'on appelle Easy Arrival. Parce que c'est vrai, quand on arrive en vacances, prenez les vacances au ski, la première journée, c'est pas forcément des vacances, entre la queue pour le matériel de ski, le forfait, les cours, les inscriptions. Au Club Med, on a développé un service déployé sur tous nos villages cet hiver, qui permet de se préinscrire, de mettre sa taille, son poids, sa pointure, son niveau de ski, et d'avoir tout le matériel qui attend sur le casier, le forfait sur le lit. Et on a déjà 25% de nos clients qui l'ont utilisé cet hiver. Donc le digital est au cœur pour nous du fait de profiter encore plus de ces vacances une fois qu'on y est.
Et est-ce que demain, ce fantasme du bracelet connecté un peu à la Disney, je pense notamment à Disney et son fameux Magic Band, où on peut à la fois s'organiser et surtout régler toutes ses activités, est-ce que ce bracelet connecté, on pourrait l'imaginer demain chez Club Med, ce type d'expérience où à partir de mon wearable, je pourrais tout faire Hervé ?
Mais il existe depuis 50 ans, Club Med, ça s'appelait le collier bar.
Le collier bar, ça c'était quand même une sacrée invention.
Exactement.
Et oui, on avait des petits, on donnait des petits, c'était quoi,
des petites boules,
blanches, blanches, jaunes, oranges, vertes.
Mais maintenant c'est fini puisque tout est inclus.
Alors comme tout est inclus, on n'a plus le collier bar et donc les gens.
Ce qui est pas mal parce que parfois ça a peut-être un peu vieilli comme design.
On a aujourd'hui un bracelet physique qu'on a quand on arrive en village et qui permet de s'identifier. On a également des espaces exclusifs collection, des espaces 5 trésors. Donc des gens ont un bracelet VIP pour des espaces spécifiques. Et on travaille au fait de rendre ce bracelet connecté pour pouvoir à la fois payer, faire différentes choses. Je ne vous le révélerai pas les choses, il faut venir. Je vous invite à réserver au Club Med pour cet hiver pour en bénéficier.
D'accord. J'avais une petite question, parce que c'est vrai qu'on voit dans notre domaine de plus en plus tout ce qui est réalité virtuelle avec des masques, etc., qui nous permettent de nous plonger dans des univers incroyables. On dit, ah oui, ça va être génial pour l'immobilier et le tourisme. Alors, est-ce que c'est simplement c'est du marketing ou il y a véritablement, vous y travaillez sur ce genre de choses?
Ça fait partie des choses qu'on a développées. On a depuis le mois de décembre développé effectivement des visites virtuelles de nos villages. On a commencé par un village qui est avec Pezé-Valandry. On a ensuite enchaîné avec Finolu, puisqu'on a des villas à Finolu sur une île privative pour le Club Med.
C'est
et
où
puis,
ça
on a aux Maldives.
Ah,
on a un sublime.
Ça doit être assez moyen, je pense.
C'est très très beau à visiter en réalité virtuelle. Vous pouvez dès maintenant aller sur notre nouvelle agence des Champs-Élysées qui s'appelle l'appartement, puisqu'on a sur les Champs-Élysées un appartement qui sert d'agence et où vous pouvez expérimenter ces lunettes ainsi que dans certaines agences.
Et on
les
visite donc,
Et on visite tout un village et on peut tout voir en réalité augmentée. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis la raison pour laquelle on va au Big Boss, c'est pour rencontrer énormément de start-up et de partenaires et de technologies innovantes qui vont nous permettre demain d'inventer encore d'autres expériences, parce que le voyage, le tourisme, on le disait, c'est un des achats les plus importants. On n'a pas envie de rater ses vacances.
Bien
on a
sûr.
Même envie d'avoir des vacances fabuleuses.
Oui, parce que c'est un budget conséquent, malgré tout.
Exactement. Et le digital n'est que au service du human to human, pour faire un petit peu de franglais. Mais c'est un élément qui va permettre de se projeter, de rêver et de préparer au mieux ses vacances.
Écoutez, moi, il me tarde d'aller à l'appartement et visiter, mettre mon masque pour visiter le club
de suivre les Big Boss. Hein. Également,
oui,
l'édition estivale, on la suivra avec Aurore Géraud. Donc, on vous invite à suivre tout ça à la fois sur les ondes et sur le site de vous, Hervé.
DGTV.fr.
Merci à tous les deux.
Merci à tous les deux.
Voilà quelques bribes de ce à quoi ressemble aujourd'hui le e-tourisme. Lila, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique, notre World Tour et puis notre passion selon Sanet. On va parler d'Internet qui va peut-être changer nos vies. Jusqu'où va changer nos vies Internet? On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Notre passion selon Sanet dans un instant, mais tout de suite notre World Tour avec une immersion dans le milieu de la course automobile britannique. Là encore, au Royaume-Uni, on innove dans le monde de l'automobile et c'est avec vous, Lila Megrawa.
L'atelier numérique sur BFM Business.
60 milliards de livres. C'est ce qu'aurait généré en 2013 l'industrie automobile britannique. Et pour cause, 18 des 20 plus gros constructeurs automobiles se sont installés partiellement ou totalement au Royaume-Uni. La raison de cette attractivité, un engagement groupé du gouvernement local et de l'industrie. En tout, 1,7 milliard a été dépensé dans la recherche et l'innovation relative au secteur cette année-là. Gouvernement et entreprises mettent en effet le paquet sur la R&D, le développement des innovations automobiles à venir, à savoir les technologies bas carbone d'un côté et les technologies dites à conduite autonome. C'est sur l'énorme campus de l'université de Warwick que nous avons rencontré Gary Barton, patron de l'Advanced Propulsion Center. L'endroit est un showroom de technologies dernier cri en matière de propulsion bas carbone des véhicules.
Nous avons un budget de 500 millions de livres sterling pour investir dans différents projets qui sont développés sur le sol britannique. Et la moitié doit venir de l'industrie automobile.
À la question « Pourquoi les entreprises locales auraient besoin d'un tel centre ?», Barton répond.
Parce que nous aidons à prendre des risques. Il y a beaucoup de projets que les sociétés aimeraient réaliser, mais n'ont pas forcément l'argent pour. Nous, si.
Le risque, oui, mais aussi le refus de se cantonner à un seul et unique secteur. C'est le motto des deux institutions en matière de course automobile, ProDrive, propriétaire d'ailleurs de la marque Aston Martin, et l'écurie Williams F1, Ben Sayer de ProDrive.
Je pense qu'on va effectivement devenir davantage un fournisseur et un développeur de technologie. Alors certes, nous avons une infinité de compétences avec le secteur automobile et aérospatial. Nous ne nous fermons certainement pas aux autres secteurs, comme par exemple la course maritime.
C'est ainsi que ProDrive s'est lancé dans divers projets, sortant de son secteur habituel. L'équipe a mis au point un système de conservation destiné au transport d'organes, par exemple.
Ce que nous avons à ProDrive est une équipe d'ingénieurs. Nous pouvons regarder n'importe quel type de problème, s'arrêter, essayer d'analyser au mieux et repérer quelle serait la meilleure solution pour produire le véhicule le plus rapide qui soit. Et aujourd'hui, nous appliquons cette approche à d'autres secteurs, comme trouver la meilleure manière de transporter les organes ou produire le vélo pliable le plus léger possible.
On l'a compris, une approche multisectorielle auquel aspire aussi l'écurie automobile Williams F1 qui a adapté un outil utilisé typiquement sur ses véhicules de Formule 1 au bénéfice de réfrigérateurs de supermarché, permettant à un distributeur comme Sainsbury d'économiser jusqu'à 25% de sa consommation énergétique. Mais la diversification des constructeurs et acteurs de la course automobile britannique ne s'arrête pas là. Au bout du virage, une vision, celle du véhicule autonome. Craig Wilson, de l'écurie Williams.
Oui, nous faisons partie d'un des 4 consortiums britanniques de réflexion et de financement des projets autour du véhicule autonome. Et ça inclut des projets de simulation, notamment des simulateurs qui permettent de vérifier et d'expérimenter certaines conditions de conduite dans un environnement spécifique. Nous en testons aussi l'impact.
Une étude menée pour le compte d'AXA UK révèle que la révolution du véhicule autonome pourrait faire épargner à l'industrie près de 33 milliards par décennie. Le gouvernement britannique a de fait autorisé la conduite de véhicules autonomes dès l'été 2015 et Volvo devrait lancer son programme de conduite autonome dès 2017 sur la terre d'Albion. Serait-ce l'auto british qui vient de vous doubler ?
Lila, merci. On revient dans un instant, suite de cet atelier numérique. Avec notre passion selon Saint-Net, jusqu'où Internet va changer nos vies ? On va se poser cette question dans une minute. À tout de suite.